I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Nous, les producteurs, on a vraiment des difficultés à atteindre nos coûts de production parce que le grain n'est pas bien payé.
Les Sentinelles, des voix d'ailleurs pour un monde en commun. Bienvenue dans le podcast de Courrier International et de l'Agence française de développement sur les grands défis d'un monde durable. Et s'il était temps de parler d'argent ? Pour aller vers un monde bas carbone, plus juste et plus résilient, il faut mieux mobiliser les ressources. Et pourtant, celles-ci sont aujourd'hui insuffisantes. Alors comment financer un monde plus juste ? Cette semaine, troisième épisode de notre série sur le financement d'un monde durable, Hassina Meshaï.
La Côte d'Ivoire est le premier producteur de cacao au monde, une culture centrale dans l'économie du pays, puisqu'elle compte pour 14% du produit intérieur brut national et nourrit 24% de sa population. Assata Doumbia a commencé sa carrière dans le cacao et la poursuit depuis. Muni d'une formation en commerce international, Assata Doumbia a rejoint en 2004 la coopérative des agriculteurs de Meyagi, une coopérative de producteurs de cacao dont elle est la présidente du conseil d'administration.
On a créé la coopérative en 2004 parce que notre cacao était mal payé. On commençait à devenir de plus en plus vulnérable face aux acheteurs. Donc en 2004, 87 producteurs se sont mis ensemble. L'initiative est venue de moi-même parce que l'avantage que moi j'avais, c'est que je suis partie à l'école et je savais bien parler le français, je savais lire et écrire. Et j'avais déjà une expérience dans le commerce qui me donnait la possibilité de discuter avec des partenaires potentiels. Mais oui, quand on s'est mis ensemble, il y avait moi déjà et il y avait plusieurs producteurs, donc trois femmes. 87 producteurs, donc parmi lesquels il y avait trois femmes. Donc c'est nous qui avons commencé à travailler et à constituer la coopérative. En 2018, à travers notre réseau du commerce équitable, qu'on appelle le RIS, qui est le réseau ivoirien du commerce équitable, qui nous a mis en contact avec une microfinance solidaire qu'on appelle la CIDIC en France. Et depuis 2018, nous travaillons avec eux. Ils viennent voir exactement comment on travaille, comment on aide les femmes, comment on est engagé dans la communauté de façon sociale, de façon économique et environnementale. Tout dernièrement, en 2020, nous avons eu le prix de finance solidaire, la CIDI à Bordeaux. Et oui, nous nous inscrivons dans ce domaine-là. Depuis la création, c'était vraiment cette vision qu'on avait et qu'on essaie de mettre en pratique le jour au jour avec des partenaires, que ce soit des partenaires techniques, des partenaires financiers ou des partenaires commerciaux. Donc, on se connecte à des personnes pour vraiment améliorer notre vision du social, économique et environnemental. Le premier défi qu'on avait eu d'abord, qui nous a motivés à nous mettre ensemble, d'abord c'était le défi du prix. Le prix qu'on payait était un peu plus bas que ce que nous recevons. Donc c'était le premier défi et ça c'était déjà chose levée puisqu'on s'adressait directement à l'exportateur qui était dans la zone portuaire. Après est venu le défi de la production. La plantation devenait de plus en plus vieillissante et puis on avait besoin de fertilisants. Donc, au lieu d'aller payer les fertilisants de façon individuelle, on a commencé à payer des fertilisants groupés. Et on avait aussi envoyé des partenaires qui pouvaient nous former aussi à l'application pour avoir une bonne productivité.
Dans ces cultures, le changement climatique est déjà là, avec son lot de nouvelles maladies, la multiplication des insectes ou l'appauvrissement des sols. Les conditions de travail sont également discutables avec le travail des enfants.
On a eu des formations, on a eu des accompagnements par des partenaires pour permettre à nos producteurs de ne plus envoyer les enfants dans les plantations à des heures d'études. Et il fallait quand même séparer le travail socialisant et le travail, le pure forme de travail des enfants et que nos producteurs s'adonnaient. Donc ça, c'était un des défis. Et le défi aussi de la déforestation. Il y avait des producteurs qui agressaient la plante, comme on appelle la forêt, parce que la terre commençait à s'appauvrir, la production commençait à baisser. Donc ils partaient vers d'autres terres nouvelles. Donc du coup, on a sensibilisé les producteurs et on s'est mis ensemble de sorte à non seulement à travailler dans l'agroforesterie, mais à éviter d'agresser encore la forêt.
Assata Doumbia dispose à titre personnel de 15 hectares de cacao et 5 hectares d'EVA. Mais si les cours de cacao s'envolent, les agriculteurs ont peu de chances d'en tirer avantage, les prix de vente étant fixés au début de chaque campagne.
Le prix libéral qui a été supprimé à partir de 2010, c'est-à-dire que le prix qu'on fixait du cacao était sur le prix de Londres et le prix de New York. Donc quand le prix est haut, les exportateurs nous communiquaient le prix qu'ils achetaient le cacao. Donc le prix était donné chaque jour. Chaque jour avait son prix. Donc quand le marché descendait, tout de suite, nous, les producteurs, on savait que le marché était bas. Mais quand le marché commençait à devenir plus haut, c'était difficile, on n'avait pas l'information. Donc ce sont les acheteurs qui profitaient de la hausse du prix au lieu que ce soit nous, les producteurs. Mais depuis 2010, le prix est fixé maintenant par une structure étatique qu'on appelle le Conseil Café Cacao, qui fixe deux fois le prix au cours de l'année. De octobre à mars, il y a le premier prix. Nous sommes actuellement en train de vendre notre cacao à travers le premier prix, qui est le prix de la grande traite, où il y a plus de cacao et le prix est fixé à 1000 francs. Et du 1er avril jusqu'au 30 septembre, on va nous donner un avantage parce qu'on sait, on peut planifier notre activité. Donc, effectivement, nous sommes certifiés d'abord. On a commencé à taper d'abord sur la certification. La certification Fair Trade et puis la certification Rainforest Alliance. Et nous faisons, depuis 2020, nous avons commencé à faire la production bio et encourager les producteurs à aller vers l'agroforesterie. Oui, nous mettons l'accent sur tout ce qui est éthique, sur les conditions de vie et les conditions de production de nos cacao. C'est ça qui fait nos succès. En se mettant ensemble, il y avait deux avantages à cela déjà, parce qu'on pouvait collecter notre cacao ensemble pour envoyer jusqu'à l'usine, ce qu'on ne faisait pas avant. Donc, de façon individuelle, on vendait notre cacao dans le village. Mais en nous mettant ensemble, on collectait notre cacao et on arrivait à envoyer ça jusqu'à San Pedro, qui est à 77 km de Meadji, qui est la zone portuaire et qui reçoit du cacao. Et là, nous avons des exportateurs. Donc, on avait l'occasion en ce moment de discuter avec les exportateurs directement. Donc, oui, ça nous a donné une valeur ajoutée. La première, d'abord, on s'entendait ensemble, on évitait beaucoup de soucis. Et en allant vers les exportateurs aussi, ça nous permettait d'avoir un meilleur prix et un meilleur traitement. Ils nous donnaient souvent de l'argent aussi pour pouvoir commencer à collecter, pour nous aider à payer des camions et donc il y avait un grand avantage. Mais il faut le dire qu'il y avait déjà des coopératives existantes. Avant nous, il y avait des coopératives, il y avait des personnes qui se sont mises ensemble. Et nous sommes pratiquement la seule coopérative qui a atteint les 20 ans. Et actuellement, où nous sommes autour de 3000 producteurs. On a commencé avec 87 producteurs, mais à ce jour, nous sommes autour de 3025 producteurs. Donc, 700 femmes. Il y a des coopératives qui se sont créées après nous, et puis maintenant, des coopératives qui viennent chez nous pour prendre l'exemple, pour savoir quel est notre avantage, qu'est-ce qu'on a fait de mieux et que on arrive à résister, parce que le monde du cacao c'est un monde qui est beaucoup perturbé par plusieurs défis. Donc on arrive à résister à ces défis-là. Donc il y a des coopératives qui viennent bien sûr chez nous pour savoir notre modèle et qui essaient de copier ça aussi. Et vice-versa.
Dans la filière cacao, les femmes sont moins nombreuses que les hommes et y occupent une place de second plan. Pourtant, les chiffres mondiaux sont éloquents. Elles produisent plus de 50% de l'alimentation mondiale, mais ne détiennent que 13% des terres agricoles.
Nous n'avons pas entendu le commerce équitable parce qu'en 2004, nous, on avait un président et moi, j'étais la directrice et il y avait 3 femmes. Et aujourd'hui, il y a 700 femmes et moi, je suis la présidente. Et dans le conseil d'administration, sur le 11, on a 4 femmes. Et en plus de cela, nous avons des activités génératrices de revenus qui s'adressent directement aux femmes des producteurs. Donc, non seulement elles vont faire le cacao avec leur mari, mais on va les mettre en association aussi pour pouvoir leur permettre d'avoir, de cotiser de l'argent et leur donner d'autres activités comme du vivrier pour leur permettre d'avoir d'autres revenus supplémentaires pour s'occuper de la famille. Donc oui, la femme est très importante depuis le départ, mais le commerce équitable est venu faciliter cette communication et à faire de sorte que toutes les coopératives puissent copier ce même modèle. Pour nous, la femme ivoirienne, déjà moi, ma mère, je suis une fille ivoirienne, j'ai vu l'importance, le travail que battent les femmes ivoiriennes, mais qui n'est pas bien récompensé. Parce que dans nos traditions, la femme doit être la femme de foyer. Elle doit se lever matin, elle doit travailler, elle doit nourrir les enfants, elle doit permettre à l'homme de bien s'alimenter et de bien s'habiller, de vraiment de gérer la famille. Mais au-delà de cela, la femme aussi va à côté de son homme pour chercher de l'argent. La femme d'un producteur est toujours auprès de son mari dans les champs. Et malheureusement, quand le bénéfice de ce travail-là est mis en place, c'est l'homme qui va vraiment dicter et la femme, malheureusement, ne reçoit rien. Donc, nous, on a grandi dans ça et le message est passé aussi au niveau étatique aussi pour valoriser la femme. Donc, on a profité de cela aussi pour permettre aux femmes d'avoir leur propre revenu et de discuter de l'avenir de la famille avec le mari. Donc, c'est une sensibilisation qui est toujours en cours parce que la tradition est toujours là et il faut pas bannir la tradition, mais il faut négocier avec la tradition pour avoir la voix de la femme. Donc, c'est ce combat qu'on fait tous les jours. Et les femmes sont assez heureuses. Le travail se passe très bien. Le droit de la femme, au niveau étatique déjà, l'État a pris des lois récemment encore pour protéger encore le bien de la femme et de la femme mariée, de sorte qu'elle puisse hériter aussi avec ses enfants des plantations. Mais ça, c'est la loi. Mais quand on rentre dans la tradition, c'est tout autre. C'est vraiment difficile de l'appliquer. Mais nous, à la coopérative, on commence à faire les sensibilisations pendant que le monsieur, il est vivant. Donc, depuis une certaine année, je pense qu'il y a 56 ans de cela, nous sommes rentrés en brousse et on a commencé à faire une certaine sensibilisation auprès des producteurs pour léguer une partie de leur portion à la femme pendant qu'ils sont vivants et que cette partie-là soit vraiment bien écrite et bien documentée pour que la femme puisse avoir droit à la terre. Donc, de sorte que quand le monsieur n'est plus là, selon la tradition, la femme n'a pas le droit d'hériter de la plantation. Donc, ce sont les parents du monsieur, les frères du monsieur qui doivent venir hériter. Mais comme la plantation est déjà au nom de la femme, la portion qu'il a donnée à la femme est déjà connue par tous et qu'il y a un document qui atteste, donc la femme est protégée sur sa portion. Ce que les producteurs ont bien entendu épousé, ça n'a pas été facile. Ça, je suis en train de vous faire le résumé, ça n'a pas été facile, mais nous sommes passés de 3 femmes productrices à 700 femmes productrices. Et c'était vraiment cette sensibilisation qui a permis de l'évolution de ce nombre de femmes au sein de la coopérative. Nous permettons aussi les activités que on fait dans la coopérative, on les confie aussi à des femmes productrices ou à la femme de nos producteurs. Elles mènent ça bien. Donc, on demande à ces hommes-là pour dire que, voilà, votre femme a fait ce travail-là. Voilà, elle a bien fait ce travail. Et le monsieur, il est assez fier. Donc, et c'est ça qui facilite un peu certaines acquisitions de la terre à la femme dans notre zone. Mais il faut savoir que les zones ne se ressemblent pas. La zone de l'Ouest, elle est plus traditionnelle. Et la terre appartient aux hommes et pas les femmes. Mais quand on arrive à l'est de la Côte d'Ivoire, dans la tradition, la femme peut hériter de la plantation. Donc vous allez voir dans d'autres coopératives où il y a plus de femmes qui sont propriétaires des terres, pendant que dans d'autres régions, ce n'est pas le cas.
Le commerce équitable s'engage pour un revenu juste pour toutes et tous. Mais si le commerce équitable offre des avantages certains aux producteurs et aux consommateurs, il a aussi ses limites.
Nous, les producteurs, on a vraiment des difficultés à atteindre nos coûts de production parce que le cacao n'est pas bien payé. Et des lois qui viennent s'ajouter pour rendre encore nos travail très lourds et il n'y a pas de récompense derrière. Donc c'est pour moi le lieu de faire une plaidoirie sur les partenaires, le gouvernement de la Côte d'Ivoire et le gouvernement des consommateurs de cacao, de sorte qu'ils puissent réfléchir sur une plateforme pour permettre aux producteurs enfin de vivre aisément de ses revenus, de son travail. C'est un travail qui est très complexe, qui est très dur. Actuellement, il fait très chaud. Et quand il pleut très fort. Donc, le changement climatique vraiment perturbe tout ce qu'on fait aujourd'hui. Mais si le cacao n'est pas bien payé, c'est vraiment difficile pour nous de nous en sortir. On est heureux d'être producteur de cacao. On est heureux d'être productrice de cacao. Mais si le cacao n'est pas bien payé de façon vraiment transparente, c'est vraiment difficile pour nous de continuer ce travail.
Malgré tout, le commerce équitable reste un levier de taille pour l'émancipation et l'autonomisation des femmes dans le monde et pour des normes éthiques avancées.
Vous venez d'écouter Les Sentinelles, le podcast de Courrier International et de l'Agence française de développement. Réalisation Antoine Dabrowski. Musique Nikki de Warackles, tirée de son album Orchestra. N'hésitez pas à vous abonner et à nous laisser des commentaires sur votre plateforme préférée.
When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. If you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. Use the Stamps.com mobile app to mail everything you need to keep your business running with up to 89% off USPS and UPS. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Use code PROGRAM for a special offer. That's Stamps.com, code PROGRAM.